Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Hey, you know what?
Diffusés tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi, Les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par François Connac, avec Philippe Carminati et Yvan Charby à la technique, et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Jeanne-Marie Roux, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Rett. Adèle qui, à 10h50, entamera pour vous une série de conversations avec David Camus, petit-fils d'Albert, une évocation libre et poignante d'un grand-père qu'il n'a pas connu mais dont il parle à merveille. Car c'est une semaine sur Albert Camus que nous vous proposons pour clore cette année de Nouveaux Chemins. La deuxième semaine de l'année donc. Après avoir mis en antenne en janvier dernier les archives de Camus, nous vous proposons cette fois-ci d'écouter les 5 conférences organisées par l'équipe des Nouveaux Chemins de janvier à juin dans le grand auditorium de la bibliothèque François Mitterrand. Vous entendrez demain Agnès Piquel se promener dans l'œuvre romanesque d'Albert Camus. Mercredi, c'est Bernard-Henri Lévy qui reviendra pour vous sur la guerre et la paix d'Albert Camus et de Jean-Paul Sartre. Jeudi, Denis Salas et Jean-Yves Guérin réfléchiront sur la question du terrorisme dans l'œuvre de Camus. Vendredi enfin, Pierre-Louis Rey et Jean-Louis Saint-Ignan vous parleront du premier homme ou du dernier roman. Mais aujourd'hui, ce lundi, nous vous proposons d'entendre la conférence inaugurant ce cycle, une conférence enregistrée le 14 janvier 2010 sur le texte qui est, à mon sens, le plus beau de Camus, le plus juste, le plus riche aussi. La dernière page de la dernière nouvelle de Noce, intitulée « Le désert », un texte sublime donc, que, pour commencer, Camus lui-même vous lit.
Dieu, je le savais, avait contemplé ce paysage florentin et pour moi, il était comme le premier sourire du ciel. Il me mettait hors de moi au sens profond du terme. Il m'assurait que sans mon amour et ce beau cri de pierre, tout était inutile. Le monde est beau et hors de lui, point de salut. La grande vérité que patiemment il m'enseignait, c'est que l'esprit n'est rien ni le cœur même et que la pierre chauffée par le soleil ou le cyprès que le ciel découvert a grandi limite le seul univers où avoir raison prend un sens, la nature sans homme. Et ce monde m'annihile. Il me porte jusqu'au bout, il me nie sans colère. Dans ce soir qui tombait sur la campagne florentine, je m'acheminais vers une sagesse où tout était déjà conquis, si des larmes ne m'étaient venues aux yeux, et si le gros sanglot de poésie qui m'emplissait ne m'avait fait oublier la vérité du monde. C'est sur ce balancement qu'il faudrait s'arrêter. Singulier restant, où la spiritualité répudie la morale, où le bonheur naît de l'absence d'espoir, où l'esprit trouve sa raison dans le corps. S'il est vrai que toute vérité porte en elle son amertume, il est aussi vrai que toute négation contient une floraison de oui. Et ce chant d'amour sans espoir qui naît de la contemplation peut aussi figurer la plus efficace des règles d'action. Au sortir du tombeau, le Christ ressuscitant de Piero della Francesca n'a pas un regard d'homme. Rien d'heureux n'est peint sur son visage, mais seulement une grandeur farouche et sans âme que je ne puis m'empêcher de prendre pour une résolution à vivre. Car le sage, comme l'idiot exprime peu, ce retour me ravit. Mais cette leçon, la dois-je à l'Italie ou l'ai-je tirée de mon cœur? C'est là-bas sans doute qu'elle m'est apparue. Mais c'est que l'Italie, comme d'autres lieux privilégiés, m'offrait le spectacle d'une beauté où meurent quand même les hommes. Ici encore la vérité doit pourrir, et quoi de plus exaltant? Même si je la souhaite, qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doive pas pourrir? Elle n'est pas à ma mesure, et l'aimer serait un faux semblant. On comprend rarement que ce n'est jamais par désespoir qu'un homme abandonne ce qui faisait sa vie. Les coups de tête et les désespoirs mènent vers d'autres vies et marquent seulement un attachement frémissant aux leçons de la terre. Mais il peut arriver qu'à un certain degré de lucidité, un homme se sente le cœur fermé et sans révolte ni revendication tourne le dos à ce qu'il prenait jusqu'ici pour sa vie, je veux dire sans agitation. Si Rimbaud finit en Abyssinie sans avoir écrit une seule ligne, ce n'est pas par goût de l'aventure ni renoncement d'écrivain. c'est parce que c'est comme ça. Et qu'à une certaine pointe de la conscience, on finit par admettre ce que nous nous efforçons tous de ne pas comprendre selon notre vocation. On sent bien qu'il s'agit ici d'entreprendre la géographie d'un certain désert. Mais ce désert singulier n'est sensible qu'à ceux capables d'y vivre sans jamais tromper leur soif. C'est alors, et alors seulement, qu'il se peuple des eaux vives du bonheur. À portée de ma main, au jardin Boboli, pendaient d'énormes kakis dorés dont la chair éclatée laissait passer un sirop épais. De cette colline légère à ses fruits juteux, de la fraternité secrète qui m'accordait au monde, à la fin qui me poussait vers la chair orangée au-dessus de ma main, je saisissais le balancement qui mène certains hommes de la sèse à la jouissance et du dépouillement à la profusion dans la volupté. J'admirais, j'admire ce lien qui au monde unit l'homme, ce double reflet dans lequel mon cœur peut intervenir et dicter son bonheur, jusqu'à une limite précise où le monde peut alors l'achever ou le détruire. Florence, un des seuls lieux d'Europe où j'ai compris qu'au cœur de ma révolte dormait un consentement. Dans son ciel mêlé de larmes et de soleil, j'apprenais à consentir à la terre et à brûler dans la flamme sombre de ses fêtes. J'éprouvais, mais quel mot, quelle démesure, comment consacrer l'accord de l'amour et de la révolte. La terre, dans ce grand temple déserté par les dieux, toutes mes idoles ont des pieds d'argile.
Pourquoi vouloir décrocher la lune quand on a le soleil sous les yeux? Pourquoi réduire le désir à l'expression d'un manque quand le désir est d'abord l'absence de manque lui-même? C'est-à-dire que le désir est d'abord l'expression de l'excès de la plénitude, à l'image de ces kakis dorés dont la chair éclatée laissait passer un sirop épais. Le texte que vous venez d'entendre, que Camus interprète, qui est extrait des Noces, plus exactement, qui termine les Noces, les quatre petits essais, puisque Camus voulait les désigner comme tels, les quatre essais qui constituent les Noces, le texte que vous venez d'entendre est un texte d'une puissance philosophique absolument stupéfiante. En somme, le travail que je vous propose ici, c'est tout simplement de le lire au ralenti, c'est-à-dire de prendre la mesure non seulement peut-être de ce que Camus a voulu dire, mais également de ce qui est grand parce que ça lui échappe. Tant ce qu'il dit est riche, tant les fulgurances qui sont les siennes enjambent des parcours d'une puissance conceptuelle étonnante. Des millions d'yeux, je le savais, ont contemplé ce paysage et pour moi, il était comme le premier sourire du ciel. On est donc à la fin des Noces, la nouvelle s'appelle Le désert, et chacune de ces nouvelles se répondent. Elles sont toutes en écho l'une avec l'autre. Dans Noces Atipasa, c'est-à-dire la première des quatre nouvelles, Camus dit ceci: « Ce n'était pas moi qui comptais ni le monde, mais seulement l'accord et le silence qui, de lui à moi, faisaient naître l'amour, amour que je n'avais pas la faiblesse de revendiquer pour moi seul, conscient et orgueilleux de le partager avec toute une race née du soleil et de la mer. » Il s'agit ici pour Camus de parler d'amour. Alors, ce qui est intéressant, c'est de, quand on connaît un peu Camus, c'est de constater que Camus avait, de son propre aveu, conçu sa démarche d'auteur, de philosophe, d'écrivain, selon trois étapes, trois stases, qu'il envisageait ainsi. Il voulait d'abord parler de l'absurde. Le cycle de l'absurde a été recouvert par les épisodes du mythe de Sisyphe et de l'étranger. Puis, la révolte, l'homme révolté. Et enfin, l'amour, par où Camus entendait la réconciliation de l'homme et du monde. Réconciliation qui reposait sur ce qu'il appelle le consentement. Or, ce qui est intéressant, c'est que ce texte que vous venez d'entendre, que Camus a lu bien plus tard, bien après l'avoir écrit, mais que Camus a écrit à l'âge de 22 ans, qui est donc un texte de jeunesse, est un texte d'amour. C'est dire que chez Camus, l'amour précède l'absurde, la révolte, puis l'amour auquel il retourne à la fin. L'amour n'est pas le point d'aboutissement du travail de Camus, l'amour en est le point de départ. C'est sous le signe de l'amour que Camus a conçu son travail, que Camus a conçu son œuvre, et le texte en question est un texte d'amour. On pourrait forger un néologisme et parler ici d'amourtume, c'est-à-dire un amour amer. Et effectivement, il n'y a pas d'amour sans amertume. Chez Camus, il n'y a pas d'amour sans consentement à la difficulté de vivre, à la difficulté de faire son métier d'homme dans un monde qui nous est parfaitement ou qui est parfaitement indifférent à nous, auquel nous sommes parfaitement indifférents, auquel il n'importe pas que nous disparaissions. Alors, ce qui est intéressant ici, dans cette première phrase, c'est qu'il parle de ce paysage florentin. Or, Camus, en lisant ce texte, n'a pas lu « Des millions d'yeux, je le savais, ont contemplé ce paysage ». Il dit « Des millions d'yeux, je le savais, avaient contemplé ce paysage florentin ». C'est dire que Camus se situe longtemps après la rédaction de ce texte, probablement à un moment de sa vie, on est en 54-55, où il commence à envisager la possibilité justement d'en revenir à l'amour, de renouer avec la sagesse inouïe qui lui a permis d'écrire ses textes de jeunesse. Mais il en parle, j'allais dire, au passé, double passé, avait contemplé ce paysage florentin, dit-il. Il insiste également sur le caractère florentin du paysage. Je précise ici que la nouvelle intitulée « Le désert » est la seule des quatre nouvelles qui se passe à Florence. Les trois autres se passent en Algérie. Il était comme le premier sourire du ciel. Il serait faux, il serait erroné d'y voir ici l'expression d'un anthropomorphisme. Il ne s'agit pas pour Camus d'humaniser le monde. Au contraire, tout le travail de Camus consiste à déshumaniser le monde, à dépouiller le monde de ce que les hommes y déposent pour supporter d'y vivre. Qu'entend-il quand il parle de « premier sourire du ciel » Il y a d'autres références au sourire du ciel, notamment dans les Noces à Tipaza, quand il parle de la grandeur dans la simplicité qui adresse son sourire complice au sourire éclatant de ses ciels. C'est une image qui revient souvent. En quoi le ciel peut-il sourire chez un homme qui a déshumanisé le monde, qui a dépouillé le monde de ce que les hommes y déposent? En quoi le ciel peut-il sourire? En quoi, comme il le dira plus tard, le monde peut-il être beau alors qu'il ne nous est plus familier, alors qu'il ne nous ressemble plus? Je ne vais pas y répondre maintenant, d'ailleurs je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre au cours de cette conférence. Peu importe, il me suffit ici de poser la question. En revanche, ce qui est important également, c'est de noter le caractère premier de ce sourire du ciel. Le fait que des millions d'yeux aient contemplé ce paysage avant lui n'enlève rien au caractère premier, au caractère inaugural de l'expérience que fait Camus. C'est le premier sourire du ciel. De quoi s'agit-il? Il s'agit pour Camus de rompre avec deux perspectives, et il a déjà à 22 ans l'intuition de la nécessité de rompre avec une alternative qui est d'un côté l'alternative qui est constituée par deux termes qui sont d'un côté l'hédonisme, de l'autre côté la théologie. J'écris le mot en deux parties. La théologie, parce que maintenant il faut préciser ceci. Alors, on est donc avec Camus dans une démarche qui consiste à rompre avec cette alternative, échapper à l'hédonisme comme échapper à la théologie. Pourquoi ? Parce que l'hédonisme comme la théologie, aux yeux de Camus, repose sur un déni de la réalité. Le déni de la théologie, en l'occurrence, il est évident à comprendre. Le texte de Camus est un texte mystique à plusieurs titres, mais on peut parler ici d'un mysticisme sans Dieu. J'y reviendrai. En revanche, la théologie, au sens le plus classique du terme, spécule sur les dividendes d'un comportement ascétique le temps de la vie. En d'autres termes, Camus ne reproche pas aux théologiens l'ascétisme qui est le leur, il leur reproche le fait d'être des spéculateurs. C'est-à-dire de parier sur le fait qu'en se privant ici-bas, ils auront d'autant plus à gagner au-delà. Cette négation du présent au profit d'un futur, qu'il soit imaginaire ou non, lui semble un déni de réalité. Bon, argument qu'on peut retenir, qui est un argument, j'allais dire, classique. Le deuxième adversaire de Camus, c'est l'hédonisme. Et c'est, comme toujours, évidemment, avec les adversaires qui nous ressemblent, l'adversaire le plus redoutable ici. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de reprocher à l'hédonisme, enfin de reprocher. Il s'agit de se démarquer de la position hédoniste selon laquelle il faut vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Pourquoi ? Eh bien parce que vivre chaque instant comme si c'était le dernier, c'est profiter de la vie le plus possible, mais c'est vivre dans l'angoisse chacun des instants de la vie. C'est éprouver l'angoisse, essayer en permanence de conjurer l'angoisse qu'on éprouve. De sorte que l'hédonisme, comme la théologie, priape comme la prière. Le fait de s'agenouiller pour prier, ou bien le fait de, si j'ose dire, s'envoyer en l'air. Le fait de croire au ciel, ou bien le fait d'aller au septième ciel. Ces deux options, ces deux hypothèses relèvent d'un déni de la réalité. L'hédonisme récuse la réalité dans la mesure où il entretient avec elle le rapport anxieux de celui qui, parce qu'il a peur que la vie s'achève, se dépêche d'en jouir, mais en jouit dans l'anxiété. Et c'est de cette anxiété que Camus se défait, comme il se dépouille dans ce texte. Il y a dans Les Noces un jeu très subtil de Camus autour de la notion de dénuement. Dénuement dont il reconnaît la vertu à la fois chez les moines franciscains de Fiesole et dont il observe justement le dénuement et dont il admire le dénuement dans la mesure où le dénuement des moines franciscains est à lui-même sa propre fin. Il n'est pas ici question de spéculation au sens métaphysique et marchand du terme, hein, puisque la spéculation théologique est à comprendre en un sens métaphysique comme en un sens mercantile. Celui qui spécule, c'est à la fois celui qui se donne des objets métaphysiques, c'est également celui qui spécule sur des dividendes. Donc il y a chez Camus une volonté de saluer, si vous voulez, le dénuement des moines franciscains comme le dénuement des jeunes gens dont il est et qui se promènent nus, tout simplement, sur la plage, parce qu'ils sont dans un rapport immédiat avec le monde, c'est-à-dire avec eux-mêmes. Ainsi, comment transcender cette alternative de l'hédonisme et de la théologie? Eh bien, tout simplement, non pas en ajournant le moment de vivre au profit de la vie véritable dont cette vie présente ici-bas ne serait que le préambule, non pas, évidemment, en jouissant de chaque instant comme s'il était le dernier, mais en jouissant de chaque instant, pardonnez-moi, comme s'il était le premier. Et c'est ici l'enjeu. Le premier sourire du ciel est à comprendre en ce sens. Il s'agit de jouir de chaque instant de la vie, non pas comme s'il était le dernier, mais comme s'il était le premier. De fait, c'est la qualité de chaque instant d'offrir cette alternative, d'être à la fois le dernier et le premier de son genre, et de nous laisser la liberté d'en profiter comme s'il était le dernier ou comme s'il était le premier. La différence, c'est que dans un cas, on est dans l'étonnement renouvelé face à un monde qu'on découvre à chaque instant. Dans l'autre, nous ne sommes pas dans l'étonnement, nous sommes dans l'angoisse, nous sommes dans la représentation d'une mort qui, quand elle arrivera, qu'on ait joui ou non tout le temps de la vie, nous laissera dans l'angoisse. Camus est un lecteur de Montaigne. Camus a notamment lu dans les Essais les deux chapitres que Montaigne consacre à la mort, le chapitre 19 et le chapitre 20 du premier livre des Essais, dans lequel Montaigne explique que nous ne pouvons savoir d'un homme s'il a réussi sa vie qu'à la dernière seconde, à la dernière minute de sa vie. En somme, ce qui caractérise une vie réussie, c'est la façon dont nous mourons. Montaigne disait « Je veux que la mort me trouve plantant mes choux dans l'indifférence à elle. Je ne veux pas céder à la mort un pouce de terrain de mon vivant. Or, c'est céder à la mort tout le terrain que de profiter de la vie parce qu'elle va s'achever. » Ainsi, premier sourire du ciel est à entendre ici comme une façon de magnifier, d'accueillir la munificence de chaque instant, plutôt que de se dépêcher de jouir des choses avant qu'elles ne s'estompent. Il me mettait hors de moi au sens profond du terme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hors de moi au sens profond du terme. Ça veut dire hors du moi. Camus est ici débarrassé du moi, c'est-à-dire débarrassé d'un rapport de sujet à objet au monde, d'un rapport de représentation au monde, d'un rapport de spectateur au monde. Au début des Noces à Tipaza, Camus explique, hein, « Avant d'entrer dans le royaume des ruines, pour la dernière fois, nous sommes spectateurs. Mais pour la dernière fois, il ne s'agit plus d'être spectateur. Il s'agit de s'intégrer au monde, il s'agit de faire l'expérience de cette intégration au monde, qui est une expérience, je vous l'ai dit tout à l'heure, teintée d'amertume. Pourquoi est-elle amère ? Eh bien parce que la découverte que fait Camus dans Les Noces, qui est la découverte de notre appartenance au monde, du fait que l'homme ne transcende pas l'ordre de la nature et qu'il s'agit par conséquent, en termes philosophiques et historiques, de jouer la nature contre l'idolâtrie de l'histoire dans laquelle Sartre versera plus tard, la découverte de l'appartenance au monde est solidaire de la découverte selon laquelle le monde est parfaitement indifférent à ce qui peut nous arriver. La découverte du silence du monde va de pair avec la découverte de mon appartenance au monde. Je fais dans le même geste l'expérience d'appartenir au monde et en même temps l'expérience que le monde ne me parle pas. C'est l'expérience de l'absurde. Sauf que l'absurde chez Camus, qu'il théorisera dans le mythe de Sisyphe quelques années plus tard, l'absurde naît de la rencontre justement entre le silence déraisonnable du monde et l'appel éperdu de l'homme, la demande de sens. Dans l'amour, il s'agit en un sens d'un deuil abouti, d'un deuil accompli. C'est-à-dire un deuil accompli, c'est-à-dire il ne s'agit pas de considérer que Dieu est mort, il s'agit de considérer que Dieu n'a jamais vécu. Et qu'à cet égard, il ne nous appartient pas de demander un sens au monde et que nous découvrons simultanément que nous en faisons partie et qu'en même temps, ce monde ne nous ressemble pas. Notez ceci que Camus aide à penser. Dieu, à visage humain, à chaque fois qu'il est transcendant. Dès qu'on envisage un dieu transcendant, on se le représente comme un roi, un tyran, quelqu'un qui aurait, en somme, les pleins pouvoirs, qui pourrait faire ce qu'il veut. Le dieu de Camus, je mets naturellement ici le mot entre guillemets, c'est comme le dieu de Spinoza, autre dieu qu'il faut mettre entre guillemets, c'est un dieu qui n'a pas d'intention, qui n'a pas de volonté, car il est tout ce qui est. Il est tout ce qui existe, y compris celui qui se le représente. Le réel est tellement vaste qu'il inclut même les tentatives que nous faisons de lui échapper. Ainsi, la découverte de l'appartenance au monde va de pair avec la dilution de ce qui fait de moi un sujet et qui, à cet égard, me sépare du monde. Nous sommes séparés du monde par l'intelligence, par exemple, qui est l'œuvre du sujet. L'intelligence, c'est très exactement ce qui nous permet de comprendre, d'analyser, de décrypter, de mettre le monde à distance. Et par là même d'halluciner une intelligence supérieure à la nôtre, une sorte de super artisan divin, qui n'aurait avec nous de différence en somme que quantitative. Dieu serait un super homme. Quand Dieu est transcendant, il a le visage humain. Quand Dieu est immanent et qu'à cet égard nous faisons partie de lui, et qu'en somme, nous sommes, comme dit Spinoza, des parties de l'entendement infini de Dieu, eh bien, nous ne sommes plus séparables de Dieu, nous ne sommes plus séparables du monde. Et donc, à ce titre, nous faisons là une expérience qui est à la fois une expérience d'amour, d'adhésion, de consentement, expérience qui est simultanément l'expérience d'une amertume, c'est-à-dire d'un monde auquel nous sommes parfaitement indifférents. Il me mettait hors de moi. Dans le vent à Djémila, nouvelle magnifique des noces, il dit, Camus dit ceci, « Comme le galet verni par les marais, j'étais poli par le vent, usé jusqu'à l'âme. J'étais un peu de cette force selon laquelle je flottais, puis beaucoup, puis elle enfin, confondant les battements de mon sang et les grands coups sonores de ce cœur partout présent de la nature. Le vent me façonnait à l'image de l'ardente nudité qui m'entourait. Et sa fugitive étreinte me donnait, pierre parmi les pierres, la solitude d'une colonne ou d'un olivier dans le ciel d'été. » Écoutez ça. « Ce bain violent de soleil et de vent épuisait toutes mes forces de vie. À peine en moi, ce battement d'ailes qui affleure, cette vie qui se plaint, cette faible révolte de l'esprit. Bientôt, répandu aux quatre coins du monde, oublié de moi-même, je suis ce vent. Et dans le vent, ces colonnes et cet arc, ces dalles qui sentent chaud, et ces montagnes pâles autour de la ville déserte. Et jamais je n'ai senti si avant à la fois mon détachement de moi-même et ma présence au monde. » Voilà ce que Camus décrit, voilà ce qu'il raconte, voilà l'aventure insensée qu'il décrit. Aventure infernale. Notez qu'il ne se passe rien dans les noces. C'est un jeune homme qui se promène au milieu des ruines. C'est tout. C'est tout. C'est le tout. C'est de ça qu'il est question. Donc, hors de moi, au sens profond du terme, il faut bien comprendre ici que hors de moi, c'est débarrassé du moi. Je suis enfin débarrassé du moi, je suis disponible, je suis poreux. Je suis poreux, ceux qui sont imbus de leur moi sont peureux. Il me mettait hors de moi au sens profond du terme. Cette expression est à mettre évidemment en parallèle avec la phrase, deux phrases plus loin, « Le monde est beau et hors de lui ». Point de salut. Être hors de moi, être débarrassé du moi, c'est comprendre qu'il n'est rien hors du monde. C'est faire cette expérience selon laquelle il n'est rien hors du monde, pour une raison simple d'ailleurs. Camus considère comme Parménide, dont on fait à tort l'ancêtre de la métaphysique alors qu'il est l'ancêtre de l'immanence, considère comme Parménide que ce qui existe, existe et que ce qui n'existe pas, n'existe pas. De sorte que si Dieu existe, il ne peut pas être transcendant. Parce qu'on ne peut pas être transcendant et exister à la fois. Si on existe, on ne peut pas être transcendant, on ne peut pas exister et être au-delà. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux, si vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas deux tableaux, il n'y en a qu'un. Le monde est beau, le monde est simple, le monde est unique, et c'est cette difficile unicité du monde qu'il faut assumer, qu'il faut être capable d'assumer, et pire ou mieux, qu'il faut être capable d'aimer. Donc le paysage florentin m'assurait, dit Camus, que sans mon amour et ce beau cri de pierre, tout était inutile. Qu'est-ce qui est inutile ? Est-ce à dire que son amour et ce cri de pierre sont utiles ? Non, naturellement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qui est inutile pour Camus, c'est précisément ce qui relève de l'ordre d'une utilité. C'est-à-dire ce que nous inscrivons dans une fonction, ce dont nous avons besoin. Que fait un peintre quand il représente une nature morte ? Mettons une pintade. Il représente une pintade. Vous n'allez pas manger la pintade qui est peinte. Il dépouille la pintade de son utilité et les couverts en général dont il agrémente la pintade. Vous n'allez pas vous servir des couverts qui sont représentés pour découper la pintade qui est peinte. Je vous le déconseille. Vous n'allez pas la manger, vous n'allez pas non plus vous servir du cadre du tableau pour balayer votre moquette ou le sol qui est à vos pieds. Non. Vous êtes là, devant la nature morte, précisément, que les Anglais ont bien raison d'appeler « still life », c'est-à-dire le contraire, en l'occurrence. Vous êtes bien là, devant quelque chose d'inutile. Quelque chose qui non seulement est inutile, mais qui nous enseigne que ce qui est véritablement utile, c'est ce qui dépouille le monde d'un rapport utilitaire. C'est-à-dire de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours. La vie dont nous parle Camus ici et l'expérience qu'il fait, ça n'est pas la vie de tous les jours, c'est la vie de chaque instant. Celle que tous les jours, comme un écrin, celle que la vie de tous les jours ménage, dont la vie de tous les jours ménage la possibilité, comme un écrin. Mais la vie qui est en question ici, qui est en jeu ici au sens fort du terme, c'est la vie de chaque instant. J'en profite pour faire une parenthèse, on me demande souvent à quoi sert la philosophie, j'ai plaisir à répondre à rien du tout. Pourquoi à rien du tout ? Précisément parce que c'est là qu'elle est utile. Elle est utile dans la mesure où est inutile précisément ce qui sert à quelque chose, à la fin des fins. Et que la philosophie ne servant à rien du tout nous enseigne à nous attacher à ce qui, en apparence, n'a pas d'utilité. C'est exactement ce que fait Camus ici. Ceux qui disent de Camus qu'il n'est pas philosophe se mettent le doigt dans l'œil. À deux doubles titres, d'abord parce qu'ils ne savent pas regarder, et ensuite parce que c'est mal voir qu'un homme qui écrit aussi bien est un homme dont la maturation prend juste la forme fulgurante d'un style. Mais considéré comme une alternative, le fait d'être écrivain ou philosophe n'a tout simplement aucun sens. Un texte comme celui-là le manifeste parfaitement. La grande vérité que patiemment il m'enseignait, c'est que l'esprit n'est rien ni le cœur même, et que la pierre chauffée par le soleil, ou le cyprès que le ciel découvert a grandi, limite le seul univers où avoir raison prend un sens, la nature sans homme. Alors, c'est intéressant cette expression de nature sans homme, qui évidemment étend à la sphère de l'humanité l'expérience que fait Camus quand il dit d'un paysage qu'il le met hors de moi, hors de lui donc. Non pas au sens où il serait en colère, mais au contraire au sens où il ferait la paix. Être hors de moi, en l'occurrence, je suis hors de moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Chez Camus, ça veut dire je fais la paix. Ça veut dire je ne m'appartiens plus, non pas au sens où je suis l'esclave de ma colère, non, ça veut dire je ne m'appartiens plus car je découvre mon appartenance au monde, ma solidarité avec le monde. Alors la nature sans homme, de quoi s'agit-il ? Cette nature sans homme, on la retrouve dans la nausée. Roquentin fait exactement la même expérience que Camus ici, il faut parler de Camus ici. Roquentin, le héros ou l'anti-héros de la nausée, fait exactement la même expérience. Du jour au lendemain, il se réveille, et telle une révélation sans Dieu, il découvre le monde dans sa nudité, et du jour au lendemain, la langue lui semble une sorte d'araignée, la main qu'on lui tend ressemble à un gros ver blanc, et ainsi de suite, une expérience que je vous déconseille de faire trop souvent, hein, parce qu'au bout d'un moment, c'est déstabilisant. Mais que découvre Roquentin ? Il découvre précisément la nature sans homme, et la difficulté d'être libre, là encore, dans un monde qui se fiche que nous soyons libres ou non, et qui par conséquent nous laisse la liberté d'être libres si on le veut. La nature sans homme, c'est également l'expérience que fait Camus, et c'est une expression très intéressante quand même chez un homme qu'on réduit à ce que j'appellerais, enfin ce qu'on a appelé l'humanisme. L'humanisme de Camus est un drôle d'humanisme. C'est un humanisme qui procède en son départ, en sa source vive, de l'expérience d'un homme qui s'oublie dans le paysage, qui en revient à la nature. Ce qui permettra à Camus de jouer la nature contre l'histoire et surtout, de ne pas faire de la nature une norme. Car ceux qui spéculent sur la nature, version péténiste si vous voulez du retour à la nature, et qui à cet égard font de la nature une norme, continuent d'anthropomorphiser la nature. Parler de nature sans homme, c'est refuser de faire de la nature une norme, c'est faire de la nature un tout, et découvrir qu'à cet égard, nous en faisons partie. Dans les Noces à Tipaza, il y a un autre texte étonnant où il dit ceci, « Dans ce mariage des ruines et du printemps, les ruines sont redevenues pierres et perdent le poli imposé par l'homme. Elles sont rentrées dans la nature. Que d'heures passées, dit Camus, à écraser les absinthes, à caresser les ruines, à tenter d'accorder ma respiration au soupir tumultueux du monde. Enfoncé parmi les odeurs sauvages et les concerts d'insectes, j'ouvre les yeux et mon cœur à la grandeur insoutenable de ce ciel gorgé de chaleur. » Ce n'est pas si facile de devenir ce qu'on est, de retrouver sa mesure profonde. Il dit devenir ce qu'on est. Il faut entendre ici la liberté. Vous savez, la liberté, hein, trois termes pour la liberté. Un, je fais ce que je veux. Bon, d'accord, ok. Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Parce que celui qui dit « je fais ce que je veux », d'abord, ignore qu'il est déterminé à vouloir ce qu'il croit vouloir de lui-même. Donc, laissons de côté le libre arbitre. Il y a celui qui dit « je veux ce que je fais ». Et celui-là est dans la résignation. Et il y a celui qui dit « je deviens ce que je suis ». Alors celui-là, il y a une version essentialiste qui consistera à dire « mais alors votre liberté n'est que dans le développement d'une substance préalable que vous ne faites que déployer ». Non, devenir ce qu'on est, c'est tout simplement accepter de marcher dans ses pas. C'est être non pas dans la résignation, mais être dans ce que Camus appelle le consentement. Consentement qui repose sur la découverte de la nature sans homme. Ce monde m'annihile, il me porte jusqu'au bout, il me nie sans colère. Dans ce soir qui tombait sur la campagne florentine, je m'acheminais vers une sagesse où tout était déjà conquis. Et ça, c'est magnifique. La sagesse où tout était déjà conquis, parce que c'est une définition de la philosophie, mais une définition inversée de la philosophie. On dit souvent de la philosophie qu'elle est amour de la sagesse, désir d'une sagesse qui, à cet égard, lui fait défaut. C'est dire d'ailleurs que l'amour de la sagesse n'est pas sage. Parce que si on désire la sagesse, c'est qu'on ne l'a pas. De sorte que l'amour de la sagesse est un amour fou. On réduit la philosophie bien souvent à l'amour de la sagesse. Pourquoi ? Parce qu'on indexe le désir sur le manque. Le désir, sur, vous savez étymologiquement, le désir c'est « décidus ». C'est l'absence de l'étoile, qu'on peut comprendre à la fois comme la nostalgie de l'étoile, et donc désirer décrocher la lune, un désir qui n'est jamais satisfait, ou bien l'absence totale de l'étoile. C'est pour ça qu'on parle des pourceaux d'Épicure. Les pourceaux d'Épicure, ce n'est pas parce que c'est des cochons qui se vautrent dans la fange. Non, c'est parce que la colonne vertébrale du pourceau ne lui permet pas de regarder le ciel. Ainsi, le désir en question, qui constitue une définition classique, métaphysique, traditionnelle de la philosophie, ce désir-là situe la sagesse loin de nous, à bonne distance, à suffisamment bonne distance pour qu'on ne l'atteigne jamais. On a un rapport asymptotique à la sagesse. La philosophie est amour de la sagesse. Bien, que propose Camus ici ? Non pas l'amour de la sagesse, mais la sagesse de l'amour. Sagesse de l'amour, c'est-à-dire la joie. C'est-à-dire l'art d'aimer le monde malgré ce qu'il a de déplaisant. On pourrait trouver ça absurde et incohérent. Après tout, le monde n'a rien de réjouissant. De quel droit pourrais-je, moi, m'en réjouir ? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de folie ou d'obscénité à le faire ? Folie peut-être, obscénité non. Pourquoi ? Parce que être dans un rapport de joie au monde, c'est en l'occurrence aimer le monde malgré ce qu'il a de déplaisant, c'est-à-dire ne pas redoubler la douleur qui me vient du monde par la plainte qui s'élève contre cette douleur. En somme, celui qui n'est pas dans la joie, celui qui subit le monde, celui qui espère, comme le philosophe espère la sagesse, un jour supprimer le malheur qui est le sien, celui qui à cet égard oublie que le plus important a déjà commencé, celui-là est cohérent, subit le monde et s'exprime de façon fidèle à ce que le monde lui propose. Le monde est triste, il fait moche, vous pleurez. Celui-là est cohérent, mais en même temps, la douleur qui est la sienne se double de la plainte qui s'élève contre cette douleur elle-même. Alors que dans la joie, vous souffrez. Mais comme dit Spinoza, celui qui a des regrets est malheureux deux fois. Ainsi, être dans la joie, c'est être fou, c'est être incohérent. Mais c'est une folie qui, à cet égard, a peut-être plus de sagesse que la simple cohérence d'un rapport, j'allais dire, de cause à effet par rapport au monde. L'appartenance au monde ne nous situe pas dans un rapport de cause à effet à son endroit. Donc cette sagesse où tout était déjà conquis, c'est une sagesse absolument magnifique qui vient également, qui renvoie à l'Évangile. Hein. Ce texte-là est un texte qui évoque l'Évangile, notamment quand le désert se peuple des eaux vives du bonheur, qui évoque l'Évangile. C'est un texte qu'on peut désigner comme un acte de foi, comme une profession de foi. Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est comme la joie. La foi tient bon malgré tous les démentis que le monde lui apporte. La joie tient bon malgré tous les démentis et l'amertume que le monde nous propose. Cette sagesse où tout était déjà conquis, ça n'est plus la philosophie, c'est la sophiaphilie, disons. La sagesse de l'amour. Si des larmes ne m'étaient venues aux yeux et si le gros sanglot de poésie qui m'emplissait ne m'avait fait oublier la vérité du monde. C'est sur ce balancement, dit Camus, qu'il faudrait s'arrêter. Singulier instant où la spiritualité répudie la morale, où le bonheur naît de l'absence d'espoir, où l'esprit trouve sa raison dans le corps. Il y a ici plusieurs choses importantes. L'opposition entre la spiritualité et la morale est une opposition en vérité entre l'éthique et la morale, c'est-à-dire entre l'adhésion au singulier, le rapport singulier à l'individu, et des grandes valeurs morales, un décalogue auquel il suffirait de se plier pour conformer son existence à l'idée qu'on s'en fait. En somme, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que Camus est sensible aux douleurs qui lui sont épargnées, tout simplement. Camus souffre des douleurs qui lui sont épargnées, il n'a pas besoin de morale pour tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. En l'occurrence, la spiritualité lui suffit. Le fait de spiritualiser le monde lui suffit, c'est-à-dire le fait de s'intéresser au monde dans ce qu'il a de singulier. J'attire votre attention sur le fait que l'unicité du monde, le fait qu'on ne puisse pas sortir du monde, le fait que hors du monde, il n'y a point de salut, et qu'il faut pourtant trouver son salut à l'intérieur du monde. Le fait que nous ne puissions pas sortir du monde interdit d'adopter vis-à-vis du monde toute position de surplomb. On ne peut pas regarder le monde d'en haut. De la même façon qu'on ne peut pas s'abstraire du réel à la façon d'un sujet qui, imbu de lui-même et de son libre arbitre, décide que la nécessité ne s'applique pas à lui, décide également qu'il est hors du monde et qu'il le regarde de l'extérieur. On ne peut pas s'abstraire du monde. Comme on n'a pas de position de surplomb vis-à-vis du monde, on est en situation, tout simplement, d'être juge et partie, de rencontrer le monde dont nous faisons pourtant partie. De sorte que l'objet que nous avons sous les yeux est un objet qui, à cet égard, ne peut nous apparaître quand on le regarde bien, quand on s'étonne de ce qu'il est, quand on dépasse l'habitude ou la quotidienneté, quand on transcende la quotidienneté, non pas au profit de l'éternel, mais au profit d'une attention renouvelée, d'un étonnement renouvelé. Quand on transcende la quotidienneté, qu'est-ce qu'on a sous les yeux à ce moment-là ? Le singulier. C'est ce qu'il dit. Où le bonheur, donc la spiritualité répudie la morale, où le bonheur naît de l'absence d'espoir. Alors, j'attire votre attention sur le fait que dans l'été à Alger, qui est la deuxième nouvelle des noces, Camus, parlant d'Algérie, dit ceci : ce pays est sans leçon. Il ne promet ni ne fait entrevoir. Il se contente de donner, mais à profusion. Il est tout entier livré aux yeux. Et on le connaît dès l'instant où l'on en jouit. Ses plaisirs n'ont pas de remède et ses joies restent sans espoir. Ce qu'il exige, ce sont des âmes clairvoyantes, c'est-à-dire sans consolation. Il demande qu'on fasse un acte de lucidité, comme on fait un acte de foi, singulier pays, qui donne à l'homme qu'il nourrit à la fois sa splendeur et sa misère. C'est inouï ce qu'il faut être jeune pour être aussi sage. C'est fou comme à quel point Camus a su préserver cette jeunesse qui fait de lui un sage. Quand je parle de jeunesse, naturellement, je ne parle pas du poids des ans, ici, ou de la légèreté des ans, du fait d'avoir peu d'années. Ce n'est pas parce que Camus a 22 ans qu'il est jeune. Camus a, en un sens, rajeuni, notamment quand il en est revenu à l'amour, quand il est revenu à l'amour à la fin de son cycle, malheureusement interrompu. Camus est toute jeunesse, toute sagesse de la jeunesse. Il est dans un rapport au monde qui est un rapport d'étonnement renouvelé, et ce rapport-là, c'est la source vive de son inspiration. Ainsi, ce bonheur qui naît de l'absence d'espoir est à comprendre de façon très précise, il faut être attentif aux mots ici, c'est l'absence de l'espoir qui fait surgir le bonheur. Ce n'est pas la perte de l'espoir. Encore une fois, Dieu n'est pas mort. Dieu n'a jamais vécu. De sorte que l'absence, ici, n'est pas la découverte d'un vide, d'une vacuité, c'est la découverte d'une plénitude. Nous sommes rendus à une plénitude scindée par la représentation chimérique d'un Dieu transcendant. Nous sommes rendus à une plénitude dont nous séparait la représentation d'une divinité transcendante. Être rendu à cette plénitude, ça n'est plus parler de perte d'espoir, c'est parler d'absence d'espoir. Alors, sur le mot d'espoir lui-même, qui est intéressant d'ailleurs, parce que Camus fera une collection qui s'appellera « L'espoir », c'est dire que Camus est pluriel, mais en l'occurrence, ce texte-là, comme toutes les noces, ce sont des textes contre l'espoir. Pourquoi ? Parce que, comme dit Cioran, l'espoir est une vertu d'esclave. Il soumet notre bonheur, il subordonne notre bonheur à l'obtention de ce qu'on espère. Ainsi, être dans l'absence d'espoir, c'est ne pas dépendre d'autre chose que de soi. Sur l'espoir, d'ailleurs, c'est intéressant. Certains vous diront « sans espoir, je ne vivrai pas ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis désespéré. Et que, étant désespéré, j'ai donc besoin de l'espoir pour ne pas savoir ou admettre que je suis désespéré. Vous avez l'étape d'après, ceux qui disent, les pessimistes, que Pascal appelle aussi les demi-habiles, qui disent « mais non, voyons, gros malin, si tu espères, tu t'exposes à la déception. Tu t'exposes à la tristesse, de sorte que l'espoir n'est pas un remède à la tristesse. L'espoir, en réalité, est la source de la tristesse. Mais il y a une troisième étape, qui n'est ni optimiste, ni pessimiste, ni fidéiste, ni désenchantée, mais qui est tout simplement tragique, qui est l'étape camusienne, qui est l'amour, qui consiste à dire que ça n'est pas l'espoir qui remédie à la tristesse, ni l'espoir qui engendre la tristesse, c'est la tristesse qui engendre l'espoir. Si l'on fait une généalogie du désir qui est le nôtre d'espérer, qu'est-ce qu'on découvre ? Le désespoir en son principe. La source de l'espoir, c'est le désespoir. Si le bonheur naît de l'absence d'espoir, c'est parce que par bonheur, il faut ici entendre la joie. Il y a d'ailleurs chez Camus une ambivalence autour de la notion de bonheur, j'espère avoir le temps d'y revenir. Alors, s'il est vrai que toute vérité porte en elle son amertume, il est aussi vrai que toute négation contient une floraison de oui. L'amertume dont il parle ici est une amertume savoureuse. C'est le bonheur amer. C'est le bonheur amer de Camus. Quand il parle, par exemple, il dit ceci, un bonheur qui est lié à l'amour. Je sais des heures et des lieux où le bonheur peut paraître si amer qu'on lui préfère sa promesse. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais précisément, cette amertume qui est le lot de la vérité, la dot de la vérité, la dot d'un rapport non mensonger au monde, c'est-à-dire d'un rapport au monde qui accepte de ne pas dicter sa loi au monde, mais qui accepte d'être tout simplement partie prenante du monde, ce rapport-là est un rapport qui nous expose à l'amertume et auquel il faudra répondre par le consentement. C'est pour ça que Camus dit plus tard, juste après, il est aussi vrai que toute négation contient une floraison de oui. On a ici les premières esquisses, au fond, de ce qui fera le fond de l'homme révolté, ou l'esclave qui dit non parce qu'au fond, il dit oui à quelque chose de plus important et qu'il y a un consentement au sein du refus, au principe du refus. Ce chant, dit-il, ce chant d'amour sans espoir, qui naît de la contemplation, peut aussi figurer la plus efficace des règles d'action. Au sortir du tombeau, tenez, regardez-le, le Christ ressuscitant de Piero della Francesca n'a pas un regard d'homme. Mais voilà, c'est l'apparition. Voilà le tableau dont il parle. Vous le trouvez en Toscane, hein, c'est un texte sur la Toscane, à San Sepolcro. Au sortir du tombeau, le Christ ressuscitant de Piero della Francesca n'a pas un regard d'homme. Rien d'heureux n'est peint sur son visage, mais seulement une grandeur farouche et sans âme que je ne puis m'empêcher de prendre pour une résolution à vivre, car le sage comme l'idiot exprime peu, ce retour me ravit. Alors, texte magnifique, éloge magnifique, merveilleux, n'a pas un regard d'homme, la nature sans homme. Rien d'heureux n'est peint sur son visage, mais seulement une grandeur farouche et sans âme que je ne puis m'empêcher de prendre pour une résolution à vivre. Le Christ de Camus, si Christ il y a, est un Christ qui n'a pas un regard d'homme, qui n'a pas d'âme et qui donc, à cet égard, n'est pas heureux, mais qui est décidé à vivre. Pourquoi ? Parce que c'est ainsi, et qu'il n'est d'autre raison que la vie est à elle-même son propre sens. La perpétuation de la vie est à elle-même son propre sens. Il ne s'agit pas, derrière cela, il y a l'idée qu'il ne s'agit pas pour la pensée de nous donner des raisons de vivre. Pourquoi ? Parce qu'on vit avant de penser. Ce n'est pas la pensée qui donne des raisons de vivre, c'est la vie qui donne des raisons de penser. La vie est à elle-même sa propre fin. De la même façon que les gestes qui comptent véritablement sont des gestes qui n'ont pas d'autres intentions, ne témoignent pas d'une autre intention que le geste lui-même. C'est pour ça que Camus s'attache dans Les Noces à décrire des femmes qui dansent. Parce que la danse, c'est précisément le moment où nous agissons pour agir. Ou, comme dirait Spinoza, nous agissons avec la même nécessité qu'on existe. C'est un geste qui n'a pas d'autre fin que lui-même. Et c'est ce geste-là dont le Christ de Camus est l'expression. Alors, c'est intéressant d'ailleurs de comparer les deux visages. Il y a des expressions de Camus qui ressemblent à celles du Christ. On n'a pas la photo qui correspond ici, puisque là, il rigole. Mais après tout, pourquoi pas ? Je lui laisse le sourire. Car le sage, dit-il, comme l'idiot exprime peu, ce retour me ravit. C'est intéressant ici, cette comparaison du sage et de l'idiot. L'idiot dont parle Camus, ça n'est pas l'imbécile, c'est pas le crétin. L'idiot. Non, l'idiot, c'est étymologiquement, en grec, l'homme de la simplicité, de l'unicité, idiotesse. L'idiot, c'est le meilleur interprète de l'unicité du monde. Ce retour dont il parle, ça n'est pas le royaume des cieux sur la terre, ou plus exactement, si. C'est le fait que le ciel lui-même appartient à la terre. C'est précisément le retour dont il parle, la résurrection qui est en jeu ici. Ça n'est pas une résurrection pour une vie, pour une immortalité post-mortem. Non, c'est une résurrection qui favorise l'éternité dans l'instant. Éternité dans l'instant qui relève justement du moment où la vie devient à elle-même son propre sens. Où la vie ne cherche pas ailleurs qu'en elle-même sa justification. Cette leçon, dit Camus, la dois-je à l'Italie ou l'ai-je tirée de mon cœur ? Derrière une question anodine comme celle-là, il y a un enjeu considérable. La dois-je à l'Italie ou l'ai-je tirée de mon cœur ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La dois-je à l'Italie ou l'ai-je tirée de mon cœur ? Eh bien, ça veut dire, suis-je l'artisan de la joie qui m'anime ? Ou bien suis-je tributaire de ce qui me rend heureux ? Est-ce parce que l'Italie est belle que je suis sage ? Est-ce parce que je suis sage que le monde est beau ? Et c'est une alternative derrière laquelle se pose la question de la liberté de l'homme, c'est-à-dire de la faculté qu'il aurait d'être précisément l'artisan de son destin. Donc, la dois-je à l'Italie ou l'ai-je tiré de mon cœur ? C'est là-bas sans doute qu'elle m'est apparue, dit Camus. Mais c'est que l'Italie, comme d'autres lieux privilégiés, m'offre le spectacle d'une beauté où meurent quand même les hommes. Ici encore, la vérité doit pourrir, et quoi de plus exaltant ? Même si je la souhaite, qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doive pas pourrir ? Elle n'est pas à ma mesure, et l'aimer serait un faux semblant. Un peu avant, Camus expliquait qu'il fallait, pour un homme, être attentif à ce qui, en nous, doit mourir pour toujours. C'est-à-dire également constamment mourir. À ce qui ne dure pas, mais dont la qualité de provisoire est également ce qui inaugure la possibilité de l'éternité, d'une éternité qui n'est pas conçue comme l'immortalité, mais qui est une éternité conçue dans l'instant. La vérité doit pourrir, et quoi de plus exaltant ? Quoi de plus exaltant qu'une beauté où meurent quand même les hommes ? Quoi de plus exaltant que le défi que nous lance le monde d'être heureux alors que tout cela va disparaître ? Alors que cette beauté ne nous concerne pas, ne s'adresse pas à nous, n'est pas là pour nous. Quoi de plus exaltant que l'injonction tacite de jouir d'un monde qui se fiche qu'on en jouisse ou non ? Quoi de plus exaltant qu'une vérité qui doit pourrir, qui accepte de pourrir ? L'éternité des vérités absolues dans l'ordre gnoséologique, dans l'ordre de la connaissance, n'est pas l'affaire de Camus, n'est pas son problème, ça n'est pas ça qui l'intéresse. « Elle n'est pas à ma mesure », dit-il. Alors, il faut ici comprendre ce qu'il entend par « mesure ». Elle n'est pas à ma mesure, à la fois, elle est au-delà de lui. Évidemment, elle est démesurée, mais il y a une certaine idée de la démesure chez Camus. On va revenir là-dessus. « Elle n'est pas à ma mesure », c'est également une vérité qui ne lui permet pas de trouver sa mesure. Alors, justement, allons-y. La mesure chez Camus, c'est la révolte. Dans L'homme révolté, qui n'est pas un livre sur la révolution, mais sur la révolte, et où Camus distingue radicalement la révolution de la révolte, dans la mesure où la révolution est négatrice, alors que la révolte est affirmation, la révolte, dit-il, et c'est tout l'enjeu du dernier chapitre, qui s'appelle « La pensée de midi », chapitre qui lui a été inspiré par le souvenir de ce qu'il écrivait dans Les Noces, où il parlait du silence énorme de midi, c'est-à-dire du silence hors norme de midi. Cette mesure dont parle Camus, cette mesure qui est le point d'orgue de la révolte, c'est l'enjeu du dernier chapitre donc, de l'homme révolté, la pensée de midi. Il s'agit de montrer que quand on est un homme révolté, quand on veut préserver la révolte du double écueil du conservatisme et de la révolution, eh bien, il faut précisément rester dans la mesure. Rien ne tue davantage la révolte que le fait pour elle de verser dans la révolution. Seule la mesure nous permet de conserver justement la révolte, de préserver la révolte de ce qui la met en cause, de ce qui la compromet, l'air de la parachever, c'est-à-dire de ce qui entend la dépasser. On ne dépasse pas justement la révolte, ou alors on la dépasse dans l'amour, qui est le seul régime où Camus envisage la possibilité de la démesure.
10h50 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver le journal des nouveaux chemins de la connaissance et de poursuivre donc ses réflexions autour d'Albert Camus en compagnie d'Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour à tous. Pour cette dernière semaine de l'année, le journal des nouveaux chemins passe à l'heure d'été et se fait l'écho pour la première fois du thème de la semaine. Je vous propose donc chaque jour de passer 8 minutes de plus en compagnie d'Albert Camus, mais sur un autre ton, non plus celui de la lecture et de l'analyse, mais celui de la vie de ceux qui ont vécu après Albert Camus et qui vivent au quotidien avec le souvenir et la présence de cet homme. Cette semaine, nous allons la passer en compagnie de David Camus, qui est le petit-fils d'Albert Camus, le fils de Jean Camus, qui est romancier et qui va nous parler d'un homme mort depuis longtemps, qu'il n'a pas connu, mais dont la présence est bien plus palpable et finalement vivante qu'on ne le pense. Bonjour David Camus.
Bonjour Adèle.
On peut se demander ce que le petit-fils d'un grand-père qu'il n'a jamais connu peut avoir à dire sur son grand-père, mais en fait, ça nous permet de rentrer de plein pied dans la discussion, puisque la filiation, le thème de la filiation, a joué un rôle important pour Albert Camus lui-même.
Il a joué un rôle important pour grand-père, dans la mesure déjà où il n'a pas connu son père. Et je suppose aussi que c'était une chose très importante pour lui que d'avoir des enfants. De même que pour, je l'espère, mon père et ma tante, c'était également très important d'en avoir eux aussi à leur tour. Tout comme ça l'est pour moi aujourd'hui d'avoir une fille. Je note une chose là, c'est les termes écho, qui je trouve correspondent bien à la façon dont je vis moi cette filiation, avec ce sentiment de n'être finalement que l'écho de ce grand-père, et c'est un sentiment qui est renforcé toujours par l'emploi d'un terme extrêmement simple, qui est le terme « petit-fils ». Je n'ai jamais pour grand-père Albert Camus, je suis toujours le petit-fils d'Albert. Et c'est vraiment très étrange de voir comment finalement cette personne que j'aime absolument, j'allais dire, dont j'aime et l'œuvre et la personne, marque de tout son poids une époque, une date, celle de sa mort en l'occurrence, 1960, et on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un de particulièrement morbide, je pense même que c'est tout l'inverse. Quand on le lit, s'il y a bien une chose qui frappe, c'est le désir de vie absolument, le désir de vie quand même, le désir de vie malgré tout, quoi qu'il arrive. Ça, c'est très très fort chez lui. On le voit dans le mythe de Sisyphe, on le voit dans Le Premier Homme, on le voit même dans L'Étranger. Ça apparaît en tout cas à travers le thème de la sensualité, sa relation avec Marie. C'est pas un homme qui est morbide, mais... J'ai su assez tard, je ne sais pas trop comment, que Albert était mon grand-père, qu'il était écrivain. Mon père m'avait lu une nouvelle tirée de l'exil et le royaume qui s'appelle L'Hôte. Et cette nouvelle, ça m'avait frappé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je ne sais pas à quel point vous l'avez évoqué là, dans ces émissions. Se termine par ces mots « Tu paieras ». Daru regardait le ciel, le plateau et au-delà les terres invisibles qui s'étendaient jusqu'à la mer, dans ce vaste pays qu'il avait tant aimé. Il était seul. Et je veux dire que ces deux termes-là, ces deux phrases, « tu paieras » et le « il était seul », m'ont marqué depuis que j'ai 8 ans, en gros. Comme s'il y avait le sentiment d'une dette qui n'a pas toujours été facile à identifier ou même à formuler. Mais le sentiment qu'il fallait, moi, que je paye quelque chose à la société, aux autres. Que ce nom, en gros, qui m'était donné, était tellement énorme que d'ailleurs, bon, d'une part, j'étais un peu écrasé par lui, mais qu'ensuite, je devais rendre des comptes.
Et cette présence-là, elle est d'autant plus forte et d'autant plus vivante que vous êtes vous-même romancier.
Oui, j'aurais pu ne pas l'être. Ce que je veux dire par là, c'est que non seulement j'aurais pu ne pas l'être, mais j'ai longtemps espéré ne pas l'être, ou j'ai longtemps souhaité ne pas l'être. Et je ne suis pas sûr de vouloir l'être encore, ou je ne suis pas sûr de l'être tout court d'ailleurs. Je vais être plus précis. J'ai toujours voulu écrire. Ça a été assez clair. Dès mes 11 ans, je savais que ce serait plus tard une hippocagne, une cagne et l'écriture. C'est ce qui s'est passé. Mais je ne m'étais jamais arrêté sur un type particulier d'écriture. Je ne me suis jamais dit, et même au contraire, romancier. J'ai toujours aimé l'écriture sous toutes ses formes, c'est-à-dire pour adultes, pour la jeunesse, les documents, les essais, la fiction, les scénarios, scénarios de bande dessinée, scénarios de dessin animé, de cinéma, ce qu'on voudra, les poèmes. J'aime la matière écrite, j'aime écrire. En revanche, c'est bien une chose que je m'étais interdite, c'était d'écrire des romans. Ça, il me semblait que c'était vraiment pour moi, ça a toujours été un tabou majeur.
Un tabou ou un interdit ?
Alors là, il va falloir que vous m'expliquiez vraiment la différence.
Un tabou, ce serait quelque chose dont on n'oserait pas parler, on n'oserait pas creuser pour voir quelles sont les raisons pour lesquelles on ne pourrait pas le faire. Un interdit, ce serait comme une injonction. Non, il est impossible que moi-même, petit-fils d'Albert Camus, écrive des romans.
Non, mais je dirais un tabou, je ne sais pas. Pour moi, il y a plus une connotation peut-être morale, comme si, d'ailleurs, comme si j'avais le sentiment d'enfreindre un interdit peut-être non formulé, justement.
Voilà, alors, je sais un pas, interdit tabou, disons.
Un interdit tabou bon, au sein de la famille ou au sein de la société. Personne ne m'en a parlé, hein. Personne ne m'a jamais dit « tu n'écriras pas ». C'est
sûr.
Quelque chose que j'ai ressenti, que j'ai peut-être totalement imaginé. Mais c'est en tout cas quelque chose...
Ça n'en est pas moins réel pour autant, d'ailleurs.
Oui, je le ressentais moi comme tabou et je me le suis interdit. Et c'est vrai que les premiers romans que j'ai écrits, ça s'est presque fait par hasard. Enfin, je parle bien des romans écrits, non pas publiés. Hein. Il y a pour moi une très très grande différence, parce que j'ai beaucoup plus écrit de romans que j'en ai publiés. Et les premiers romans écrits, c'était des romans pour passer le temps pendant les vacances, tout simplement. Ils n'avaient pas du tout vocation à être publiés. C'était pour partir en voyage, en quelque sorte, pour me distraire. Et jusqu'au jour où on m'a proposé de les publier, et là, il faut quand même répondre quelque chose. À ce moment-là, j'avais montré un roman à un ami, qu'il avait lui-même montré ensuite à Françoise Verny, qui avait voulu le publier. Donc là, j'étais un peu mis devant le fait accompli. On me proposait un contrat, j'allais devoir dire oui ou non. Et j'ai dit non. J'ai dit non parce qu'il me semblait que le roman n'était d'une part pas assez bon. Et ensuite, j'avais le sentiment, peut-être à tort, que ce contrat m'était plus proposé pour mon nom que pour la qualité de ma vie.
Et finalement, peut-être que les deux sont liés. Peut-être que vous jugiez la qualité du livre décevante puisque vous-même, vous imposiez une certaine façon d'écrire qui n'était pas la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, que vous considériez votre propre œuvre à la lumière et au regard de l'œuvre de votre grand-père.
De grand-père, ouais. Bien sûr. J'y pense tout le temps. Et c'est vraiment une œuvre que j'admire. J'en aime le style, j'en aime les idées, j'aime tout ce qui s'en dégage, j'en aime l'humour aussi. J'en aime même une chose dont on n'a jamais trop parlé, me semble-t-il, c'est l'imagination.
C'est la fin des Nouveaux Chemins pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine sur Albert Camus. Vous entendrez Agnès Piquel, présidente de la Société des études camusiennes, se promener littéralement dans l'œuvre romanesque d'Albert Camus, se promener et vous promener sans vous balader d'ailleurs. Vous entendrez ça demain. Une émission en tout cas que vous pouvez retrouver comme toutes celles qui suivront sur Internet, à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous attendent, comme à chaque fois, téléchargement, bibliographie et écoute en ligne. Demain donc, de 10h à 11h, sur France Culture, 10h59, dans un instant, question d'époque.